vous m'entendez bien. Vous ne m'entendez plus, vous faites des signes. Alors merci tout d'abord, bien sûr, à l'Académie, à ses présidents, de m'avoir invité. Merci aussi à l'IHEDN, avec laquelle j'ai un rapport assez étroit grâce à l'un de ses membres qui est dans la salle, je l'ai vu arriver, donc Marc Beauvois, qui est passionné d'aéronautique. Donc nous discutons régulièrement de ces sujets-là. Merci aussi à toute l'équipe du livre Histoire de l'armée de l'air et des forces aériennes françaises, parce qu'en fait, je n'ai fait que coordonner de grands auteurs comme Claude Carlier, Sylvain Champenois, Gaëtan Siaco, ils sont dans la salle. Et puis sur la Première Guerre mondiale aussi, il y a Éric Mailleux qui n'interviendra pas malheureusement parce qu'il n'avait pas le temps, il finit sa thèse, il n'avait pas le temps de préparer une intervention pour aujourd'hui, mais c'est sûrement lui l'un des meilleurs spécialistes de la guerre aérienne en France en 14-18. Donc je vous remercie d'être là aussi. Donc c'est un ouvrage collectif, ça nous a permis d'avancer sur certains points, de renouveler aussi l'historiographie du sujet, en toute liberté, puisque ça a été préfacé par le commandant des forces aériennes, mais il ne nous a pas demandé de faire une apologie de l'histoire de l'armée de l'air. Et je suis heureux aussi devant vous, vous êtes nombreux, c'est formidable. Si on avait autant de monde dans nos séminaires à l'université, ce serait très bien. Vous êtes plus sérieux que beaucoup d'étudiants. Donc, merci d'être venu. Alors, j'espère que ça répondra à vos attentes. Et si vous avez des questions, je serai à votre disposition ensuite, parce que vous allez devoir en plus me supporter deux fois. En fait, je remplace Yves Marc pour cette première intervention, parce que Yves Marc, souffrant, ne peut pas présenter l'intervention qui doit faire le point sur ce qui s'est passé à Toulouse, enfin dans le contexte national, mais plus particulièrement à Toulouse, avant 1914. Donc j'ai accepté de le remplacer et de faire de mon mieux par rapport à cette période-là que j'étudie. Mais lui-même avait accumulé énormément de choses sur cette question. Donc il vous prie de l'excuser pour son absence. Et ensuite, je parlerai d'un autre sujet, la TECOR, qui est le début de l'industrie aéronautique à Toulouse, comme chacun le sait, dans une deuxième intervention. Alors, cette journée... comme M. Jacques Richard qui a organisé tout cela de manière remarquable, avec des gens qui viennent d'assez loin. Donc, cette journée, elle correspond quand même quelque part à plusieurs défis essentiels. Il y a maintenant tout un groupe qui travaille sur l'histoire de l'aéronautique dans le cadre universitaire, ce qui n'était pas tellement le cas jusque-là, c'était le paradoxe de Toulouse, où jusqu'à il y a une dizaine d'années, pratiquement, très peu d'historiens s'intéressaient à l'histoire de l'aéronautique. Bon, il y avait des problèmes d'accès aux sources, probablement, etc. Et puis les géographes, les sociologues occupaient bien le terrain, et puis aussi les historiens, disons, issus des métiers de l'aéronautique ou des forces aériennes, le faisaient déjà très bien. Mais on a ressenti quand même le besoin d'avoir une histoire plus générale, une histoire plus totale de l'aéronautique. Et donc, on a constitué ce groupe. Maintenant, il y a à peu près une dizaine de doctorants qui sont sur des sujets variés. Et donc, ils participent aussi au débat qui concerne Toulouse. Bon, le grand débat historiographique, vous le connaissez tous, c'est est-ce que l'aéronautique toulousaine, en fait, n'a rien à voir avec Toulouse et c'est juste un cadeau que le gouvernement ou l'État français a fait à Toulouse parce qu'on avait besoin d'une industrie éloignée des frontières les plus exposées. Donc ça, c'est une théorie très parisienne, entre autres. Et puis en face, bien sûr, il y a une théorie très locale, très toulousaine, qui dit que non, Toulouse méritait des industries aéronautiques, que c'est une ville qui s'intéressait très tôt à l'avion, qu'il y avait un potentiel, etc., une capacité aussi à développer cette industrie aéronautique, parce que le cadeau pouvait être un cadeau empoisonné. Donc, je ne sais pas si on va trancher le débat historiographique aujourd'hui, mais on va en tout cas y contribuer, et aussi contribuer peut-être à la candidature, puisque Toulouse candidate au patrimoine mondial de l'UNESCO, le responsable des archives municipales, son adjointe sont là, donc participe à cette candidature. François Borde et Catherine Bernard, que je salue. Effectivement, l'une des pistes possibles pour candidater de manière, on va dire, sérieuse au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est le patrimoine aéronautique au sens large du terme, pas seulement les bâtiments qui subsistent, y compris très récents, qui sont assez spectaculaires, mais aussi tout ce qui est patrimoine immatériel, savoir-faire, etc. Donc c'est l'une des pistes envisagées. Hein, je ne défends pas le sujet. En affirmant que c'est la seule possible, il y en a d'autres, je n'y reviens pas. Mais je pense que c'est une piste intéressante, puisque pour le patrimoine mondial de l'UNESCO, il faut avoir quelque chose d'exceptionnel. Et aujourd'hui, Toulouse, du point de vue de l'aéronautique, c'est tout à fait exceptionnel en Europe. peut-être même dans le monde, parce que Seattle n'a pas le même enracinement historique dans le process de développement de l'aéronautique. Ensuite, cet enjeu patrimonial il est essentiel, mais l'enjeu de recherche, quand même, c'est ce qui retient le plus mon attention, avec tout le groupe qu'on a constitué donc, au sein de différents laboratoires, mais qui se croisent, se rencontrent, font de la transdisciplinarité. Ça peut être le laboratoire Framespa des historiens de l'université, donc Toulouse, Jean Jaurès. C'est aussi ce qu'on appelle le LABEX SMS, Structuration des mondes sociaux, où on s'intéresse beaucoup à l'histoire sociale, pour le coup. Et j'avais fait un petit comptage un peu amusant pour montrer qu'il y avait encore une histoire d'aéronautique à écrire. On a énormément de livres sur les avions, sur les pilotes, sur les héros, sur les combats. Mais on a encore très peu de livres sur les acteurs de l'industrie aéronautique. Et je crois qu'il faut se dépêcher, avant qu'ils disparaissent peut-être certains, d'écrire cette histoire, qui est également une histoire très riche, ou ne serait-ce que sur les acteurs aussi de tout ce qui touche à l'aéronautique. Par exemple, un mythe parmi d'autres, c'est celui des hôtesses de l'air, mais paradoxalement, il y a un seul livre d'histoire en français sur l'histoire des hôtesses de l'air. Donc pourtant marqué de l'histoire de l'aéronautique. Par contre, il y en a plusieurs centaines sur le Mirage Terre, par exemple. Donc il y a quand même un déséquilibre qu'il va falloir un jour un petit peu compenser, même si on n'a pas le même rôle, mais point de vue de l'histoire totale, c'est évident qu'on est dans des déséquilibres forts. Bien. C'est extrême, évidemment. Alors, les enjeux de la recherche ont conduit aussi à explorer de nouvelles archives. On a été aidé donc, par les fonds qui sont disponibles ici, pas seulement l'archive municipale, mais aussi l'archive départementale, celle qui a le fonds de Loitier, qui est une archive départementale. Et on a obtenu dans notre nouvelle maquette d'enseignement pour la rentrée 2016 la création d'un nouveau master qui s'appelle Histoire et patrimoine de l'aéronautique et de l'espace. Donc, il ouvre ses portes en septembre 2016. Donc, si vous avez un sujet de recherche, vous avez du temps, des connaissances, n'hésitez pas à me contacter pour vous inscrire dans ce master recherche qui fonctionnera sous forme de séminaire, mais surtout avec un mémoire sur un sujet assez pointu sur lequel vous avez repéré des archives ou sur lequel vous êtes peut-être un acteur vivant, une source vivante intéressante. Donc voilà, ce groupe est constitué, ce master donc, est bien parti, il y a déjà une dizaine d'inscrits. Et il amènera donc forcément un certain nombre d'étudiants vers des nouveaux doctorats, vraiment avec une vocation en particulier forte à l'international, puisque le master sera bilingue à partir de la deuxième année, ce qu'on appelle le. Voilà donc pour le cadre général. Et dans cette première intervention, je vais traiter surtout des fusées scolaires et de leurs limites, puisque c'était ce que Marc voulait souligner, et de ce qui s'est passé à Toulouse. Et c'est vrai que Toulouse a été une ville on a beaucoup pratiqué les lâchers de ballon, parce qu'on distingue toujours les plus légers que l'air, les plus lourds que l'air. Dans les plus légers que l'air, on distingue donc, les montgolfières à air chaud, ce qu'on appelle proprement parler les ballons, qui eux utilisent l'hydrogène, ou d'autres gaz plus tard, mais dans un premier temps seulement l'hydrogène. Et les plus lourds que l'air, donc les avions pour faire simple, qui ont connu quelques déboires toulousains, puisque les premiers Toulousains à tenter l'aventure. Pas vraiment réussi, comme vous le savez, au moins pour le plus célèbre d'entre eux, Clément Ader, mais il y a eu d'autres essais sur lesquels nous reviendrons, moins connus, mais tout aussi intéressants, qui révèlent quand même qu'il existait à Toulouse quelques pionniers. Donc, dans un premier temps, l'engouement pour les montgolfières et les ballons, on peut peut-être passer à la fin. Voilà, donc ce sera le premier temps, le premier des trois temps. En histoire, on aime bien faire trois parties. Et on commence par cette image que vous connaissez tous, donc sur le premier volume 1 du 21 novembre 1783, qu'il faut replacer dans son contexte, qui n'a pas eu à Toulouse, hein, évidemment, hein, qui a eu en région parisienne, vous le savez. Et pour resituer le contexte, parce qu'il se passe aussi des choses intéressantes à Toulouse à la même époque, pratiquement seulement deux mois après. Donc c'est. Alors on a. Merci. Donc le contexte, c'est aussi un petit peu. Une façon de revisiter le règne de Louis XVI, parce qu'on a une vision parfois trop Troisième République du règne de Louis XVI, on représente Louis XVI comme un affreux tyran, etc. Alors qu'aujourd'hui, on sait bien que ce personnage est beaucoup plus complexe et qu'il présente des facettes intéressantes, parce que c'est un passionné, au moins de chirurgie, pardon, tout le monde le sait, de mécanique en général, d'exploration, de cartographie. On lui prête une dernière phrase, probablement apocryphe, il s'inquiète de savoir ce qu'est devenu Monsieur de la Pérouse. Donc, juste avant de monter sur l'échafaud, bon, ben, c'est quand même révélateur d'une certaine historiographie du sujet. Et cette passion a favorisé l'ambiance générale de, des chercheurs, de l'innovation, et aussi financièrement, parce que Louis XVI, malgré l'endettement de l'État, a pris sur sa cagnotte personnelle pour encourager un certain nombre d'inventeurs, entre autres les frères Montgolfier, comme vous le savez. Et donc, beaucoup de choses se jouent à ce moment-là, et les frères Montgolfier, qui ont fait quelques expériences donc, dans la région lyonnaise, à Annonay, ont été repérés par des membres de l'Académie parisienne, mais aussi lyonnaise d'ailleurs au départ, et se sont donc proposés de faire des démonstrations, tout d'abord à Versailles. Et le processus s'est très vite accéléré par une sorte de compétition entre les ballons à air chaud, montgolfières, des frères Montgolfier, et les ballons proprement dits à hydrogène, puisqu'au même moment, on a un physicien qui s'appelle français lui aussi, Jacques Charles, qui envisage de lancer ses propres appareils. Donc on a cette compétition très dynamique. Et le résultat ne sait pas attendre, puisqu'on lâche tout d'abord des montgolfières et des ballons sans personne à bord. Ensuite, la deuxième étape, le 19 septembre 1783, il y a un vol libre avec trois animaux, un coq, un canard et un mouton, voilà, je ne me rappelle jamais du troisième, un mouton qui sont lâchés donc, à Versailles devant le roi le 19 septembre 1783. Donc c'est le premier vol avec des êtres vivants, on va dire. Ensuite, il faut tenter un vol humain, un vol habité, on dirait aujourd'hui. Et là, les choses se compliquent, parce que, évidemment, les frères montgolfiers, déjà, ne souhaitent pas monter dans leur montgolfière, ce qui n'est pas fait pour rassurer les volontaires. Alors, on envisage aussi d'avoir recours à des prisonniers condamnés à mort qu'on gracierait. Donc ça aussi, c'est pas quand même un cas très rassurant pour l'ensemble des volontaires. Et finalement, il y a quand même un jeune scientifique au sens fin 18e du terme, c'est-à-dire qui fréquente surtout les salons et les jeunes filles, il écoute vaguement ce qui s'y dit, mais il est très aventurier, donc il s'appelle Pilâtre, Jean-François Pilâtre de Rosiers, et qui finit par convaincre l'entourage du roi qu'il ferait un excellent volontaire. On lui adjoint quand même un militaire pour son sérieux, sa force physique, sa capacité à alimenter le foyer, donc qui est le marquis d'Arlande. Et les deux hommes réussissent le 21 novembre 1783 au château d'Amouette, donc devant le dauphin, le premier vol habité, dont vous voyez là une figure qui le représente de manière un peu idéalisée, avec les deux hommes à bord. Donc ils vont jusqu'à une altitude de 1000 mètres, et surtout ils réussissent à atterrir sans trop de dégâts, et ça ainsi. Donc là, la mode des montgolfières se répand par les journaux divers de l'époque. Alors on a à Toulouse un journal qui s'appelle Affiche Annonce de Toulouse et du Haut-Languedoc, daté du mercredi 21 janvier 1784, conservé aux archives municipales, je ne dis pas de bêtises, donc on peut consulter, enfin là il y a toute la collection que l'on peut consulter, et on a une description assez précise, pas toujours très rigoureuse, mais assez précise de ce qui se passe à Toulouse pour l'une des plus grandes fêtes d'envol de ballons, qui est donc la fête de janvier 1784. Exactement, la fête a lieu le 13 janvier, mais le journal n'en rencontre que le 21 janvier, comme vous le voyez ici, je ne sais pas si vous arrivez à lire, j'ai grossi le titre, ça marche. Donc, voilà. Donc après, vous n'arriverez probablement pas à lire. Voilà comment se présente un journal de l'époque. Et dans un article donc, de l'un des principaux collaborateurs, qui s'appelle M. Dédé, on peut lire un certain nombre de descriptions. Tout s'est passé donc sur l'allée Saint-Michel, donc l'actuelle allée Juliette, bien sûr, on ne peut pas s'appeler comme ça à l'époque, donc, et l'auteur, alors peut-être qu'il exagère un peu, mais parle de 20 000 personnes présentes, c'est la plus grande fête populaire qui ait connue Toulouse jusque-là, donc on comprend l'engouement pour les ballons, qui ne va pas se démentir à Toulouse d'ailleurs pendant tout le 19e siècle, hein. Chaque 14 juillet on fera des lâchers de montgolfières ou de ballons pour célébrer l'événement. Alors, on est sûr que c'est une montgolfière, parce que même si M. Dédé ajoute à un moment donné qu'il s'agit d'un ballon, mais lui, pour lui, ballon, c'est un sens générique. Alors, il parle aussi de globe aérostatique, dans le langage du XVIIIe siècle, mais si on lit de près l'article, on constate qu'il y a de la matière inflammable qu'il faut jeter sur un réchaud, donc forcément, ce n'est pas un ballon à hydrogène, sinon les ballons seraient tournés court très vite. Donc, il s'agit bien d'un ballon à air chaud. Donc, première montgolfière. Et le premier vol habité, alors vous voyez, c'est seulement 2 mois finalement après l'expérience parisienne. Donc les délais sont très courts. Donc Toulouse fait vraiment partie des villes suiveuses, des grandes villes suiveuses des expériences parisiennes et versaillaises. Et ensuite, on a un premier vol habité à Toulouse par un physicien amateur qui s'appelle Duvernet et qui effectue ce vol le 30 août 1784. Sa montgolfière s'élève à plus de 300 mètres. Et malheureusement pour lui, une rupture de la paroi se produit et il redescend très rapidement, évidemment. Et pour éviter d'être en quelque sorte emprisonné ou victime du renversement de son panier où il est installé, il saute sur le toit d'une maison près de la rue du Sénéchal. Voilà, il s'en sort sans incident. Donc on a bien cette mode des ballons et chaque année, donc, on va lâcher des montgolfières pour le 14 juillet ou à d'autres dates régulièrement. Alors, au même moment, à Versailles, Louis XVI, lui, propose avec une forte récompense une tentative qui le séduit parce qu'elle contribuerait au rayonnement français à travers le monde. Vous savez que c'est cette période cruciale où tout se joue entre la France et l'Angleterre pour rayonner de manière, on va dire, primordiale sur le monde à travers la langue, les colonies. La France vient de perdre ses colonies, mais elle a aidé les États-Unis à gagner la guerre d'indépendance. Il y a eu des victoires navales françaises contre les Anglais, c'est tellement rare qu'on le rappelle à chaque fois. Donc, on est dans une phase où la France est crédible comme une puissance alternative à la puissance anglaise. Et Louis XVI donc, offre une très forte récompense à celui qui traversera le premier la Manche à bord d'une montgolfière ou d'un ballon, peu importe. Et là, il y a une compétition, puis la Croix de Rosier. Attend des vents favorables sur la côte française, mais c'est un mauvais choix, parce que les vents dominants sont du vent ouest. Et il se fait doubler, en quelque sorte, par Jean-Pierre Blanchard, qui est un jeune mécanicien, accompagné de son associé Jeffries. Et c'est Jean-Pierre Blanchard donc, qui réussit l'exploit le 7 janvier 1785. Alors là, on a quelques gravures d'époque qui le montrent. Alors ça, c'est une gravure vraiment d'époque, mais elle n'est pas très bonne du point de vue des couleurs, de la luminosité. On en a une autre qui est plus, on va dire, idéalisée, qui rend compte de l'exploit. Donc, première traversée de la Manche, bien avant donc les plus lourds polaires, bien avant les avions. À condition d'avoir des vents favorables, puisque là, on n'a pas du tout des dirigeables, donc tout dépend de vent. Donc, on ne peut rien faire pour se diriger, même si on a imaginé des procédés du style rame ou autre, dont vous pouvez deviner l'efficacité. Donc, cette traversée de la Manche crée un contexte encore plus stimulant, et là-dessus s'enclenche la Révolution française. La guerre avec toutes les armées européennes coalisées contre la France, les discours enflammés à la tribune de Danton sur de l'audace, toujours de l'audace, et imaginer de nouvelles armes. Et l'un des membres du comité de salut public, donc Louis-Bernard Piton de Morbeau, passionné d'aérostation, propose la création d'un corps, d'une compagnie plus exactement, d'aérostiers, qui voit le jour le 2 avril 1794, un premier corps, puis ensuite deuxième compagnie. Et comme ça fait partie de l'histoire un peu classique, cette compagnie est mise en place assez vite, et l'un des ballons, puisqu'il s'agit de ballons gonflés à l'hydrogène, ici, puisqu'ils sont quand même plus faciles à mettre en place, l'un de ces ballons participe à la bataille de Fleurus, et aurait assez activement aidé le général français Jourdan, donc, a positionné ses troupes parce qu'il connaissait assez bien les déplacements des Autrichiens grâce à ce ballon. Donc, ils auraient contribué à la victoire de Fleurus. Bon, après, il y a là tout un débat historiographique sur le rôle réel, sachant qu'un champ de bataille à cette époque-là, comme vous le voyez un peu ici, est quand même envahi de fumée, parce qu'on n'utilise pas tout sans fumée. Donc, bon, les indications données par le ballon, par signes optiques, n'étaient peut-être pas aussi précise qu'on pourrait le croire. Bon, en tout cas, ça contribue au succès de ces deux compagnies qui se développent, qui accompagnent les armées, mais quand Bonaparte prend le commandement, en quelque sorte suprême, des forces de l'armée française de l'époque, lui qui est parti dans une guerre de mouvement, qui a perdu en plus les ballons qu'il avait voulu emmener en Égypte puisque le bateau les était accoulé, est très sceptique. Parce que le gros défaut des ballons hydrogène, c'est qu'il faut 2 jours pour les gonfler. Donc, dans une guerre de mouvement, c'est pas vraiment un avantage. Une compagnie, d'ailleurs, est capturée par les forces étrangères parce qu'elle ne se replie pas assez vite avec son ballon. Donc, résultat, Napoléon, enfin Bonaparte à l'époque, dissout les compagnies d'aérostiers en janvier 1799. Et on ne va plus parler d'aérostation, en tout cas militaire, jusqu'en 1870. Donc voilà, on a une interruption de 70 ans, même si on continue à faire quelques exploits sportifs, à réaliser quelques exploits sportifs, à Toulouse d'ailleurs. Il faut attendre le siège de Paris, 1870, hein, même s'il y a des rêves napoléoniens, mais c'est sur les gravures, hein, surtout pour envahir l'Angleterre avec des montgolfières géantes. Hein. Vous connaissez tous ces gravures. Il ne faut pas donner lieu, ne serait-ce qu'un début de réalisation, évidemment, de même que Ginette. Donc, départ de Paris de Gambetta, le plus célèbre, mais il y a eu énormément de ballons à gaz qui ont été envoyés pendant le siège de Paris en 1870. Hein, 66 ballons, 10 tonnes de courrier. Certains ont été capturés, mais la plupart ont réussi à passer. Et ont permis à Gambetta d'organiser l'armée républicaine qui a tenté de libérer Paris. Donc, il y a un renouveau de l'aérostation, des ballons, y compris à Toulouse, où on trouve la trace dans la presse, en particulier, d'un certain nombre de manifestations. Très nombreuses à Toulouse, pas seulement le 14 juillet, mais pendant les années 1880-1890, on organise beaucoup de choses. L'une des pratiques les plus populaires étant ce qu'on appelle les rallyes cycloballons. C'est-à-dire qu'on lâche un ballon au gré du vent, il atterrit quelque part, et on organise une course cycliste, et c'est le vainqueur, le premier cycliste qui rejoint le ballon là où il a atterri. Et comme le vent, souvent dans notre région, change de direction, ça amène beaucoup de suspense, et ça plaît beaucoup. Donc, entre autres, le rallye cyclo-ballon de 1895, donc, un énorme succès. Ensuite, il y a aussi beaucoup d'expérimentateurs locaux. Le plus connu, c'est l'imprimeur toulousain Edmond Servin, qui, établit des raids records. Entre autres, il réussit à couvrir la distance Paris-Alès en 1908. Et dans la foulée, il fonde l'aéroclub des Pyrénées. C'est l'aéroclub à Bordeaux, à Paris, évidemment. Là, c'est l'essence de l'aéroclub des Pyrénées en 1908. Qui marque une nouvelle étape et confirme que Toulouse est un des hauts lieux quand même de l'aérostation. Et aussi, ceci est renforcé par le retour des militaires qui font le constat inquiétant du développement des zeppelins allemands, c'est-à-dire non plus des ballons de montgolfières, mais là, des dirigeables, donc qui sont motorisés et qui sont dirigeables, comme leur nom l'indique. Et les zeppelins, en plus, ont des capacités d'emport considérables, puisque ils peuvent emmener, pourquoi pas quelques troupes, mais surtout éventuellement des bombes auxquelles on commence à penser dans la littérature. Et ces zeppelins avec la structure rigide inquiètent beaucoup les Français, qui, de leur côté, ont développé des ballons souples dirigeables, avec différentes compagnies, voire régiments ensuite. Donc, et à Toulouse, alors c'est seulement dans les années 1920, je crois, qu'on a construit le fameux hangar de Balma, qui existe toujours, fait partie du patrimoine, on peut le revendiquer. Mais pas, malheureusement, pas à la fin du 19e siècle, ça aurait pu être un argument pour l'UNESCO, mais bon, ça fait partie du patrimoine. Bien. Donc, il y a cette idée que des choses sont possibles du point de vue militaire, et pas seulement de l'observation, grâce maintenant aux dirigeables, qu'ils soient mous ou qu'ils soient rigides, peu importe. Mais il y a aussi cette idée que, on le sait par des maquettes, que les plus lourds que l'air pourraient être très intéressants, parce que plus rapide, moins vulnérable, en théorie en tout cas, est capable de se déplacer pour l'observation ou d'autres activités. Donc il y a une sorte de débat dans le grand public, chez les sportifs, mais aussi au sein de l'armée, entre ceux qu'on appelle les dirigeabilistes et ceux qui sont partisans des plus lourds que l'air. Sauf que les plus lourds que l'air, pour le moment, vont rester plus lourds que l'air, on n'est pas décollé. Mais il y a beaucoup de projets. Et c'est ce qu'on va voir dans un deuxième temps, avec les intuitions de Clément Ader, enfin du moins de ses intuitions à ses premières tentatives. Je ne vais pas revenir sur toute l'histoire de Clément Ader, qui le retourne, je pense. Ça va, bon, on va dire. Donc, Clément Ader est un élément fondamental du patrimoine toulousain, du patrimoine aéronautique toulousain. Pas tellement par la réussite de son avion, mais peut-être plus par ses écrits, parce que c'est un véritable visionnaire, et qui n'avait peut-être pas les techniques nécessaires au moment où il a pu les porter à leur apogée, mais ça n'a pas été suffisant pour vraiment décoller avec son avion, en tout cas avec l'avion 3. Et Clément Ader donc, a un parcours qui est aussi assez révélateur du contexte socio-économique toulousain, parce que Toulouse n'est pas, sa région n'est pas une belle endormie au XIXe siècle. Toulouse est une ville très industrieuse. Il n'y a pas de très grandes industries, à part les industries d'État, mais il y a énormément de petites industries qui touchent à la mécanique, qui touchent à la carrosserie automobile, etc., mais aussi au cuir, aux chaussures. Et donc, il y a cette capacité technique qui est bien réelle à Toulouse,
ou dans la région toulousaine. Et Clément Ader en est un peu le symbole, puisqu'il est de Muret. Et par ses grands-parents paternels, il le touche à tout ce qui est travail du bois, puisque la famille Ader travaille le bois depuis 4 générations dans la région de Muret. Et par ses grands-parents maternels, les Fortanés, qui exploitent un moulin tissé, le lin, situé au Fauga sur la Garonne, à 6 km de Muret, il touche aussi à tout ce qui est mécanique et textile. Et il a aussi une passion, c'est l'observation des oiseaux et des hannetons en particulier, l'idée des ailes rigides, tout ça est quand même assez connu. Donc il fait des études, qui ne sont pas des études d'un niveau très élevé, mais qui lui permettent quand même d'avoir une bonne culture technique, en particulier en dessin, à ce qu'on appelle l'Institut Assio à Toulouse, qui est une école industrielle. Il est de 1857 à 1860. Et c'est là qu'il se rapproche de l'esprit des arts et métiers. Et très vite, il se lance donc dans l'activité professionnelle, il travaille pour le chemin de fer, et il se passionne pour toutes les technologies nouvelles. Vélocipède, avec des joints en caoutchouc, il s'intéresse aussi au téléphone, au télégraphe, au moteur à vapeur léger, donc le fameux rapport poids-puissance qui doit permettre à un plus lourd que l'air de décoller, et qui est difficile à atteindre avec un moteur à vapeur. Et il fait beaucoup d'essais, pas seulement à Paris, comme tout le monde le sait, mais déjà dans la région, dans le Lauragais en particulier, des essais de cerf-volant pour l'armée, et ensuite au Polygone, qui est un espace qui n'est finalement pas très loin de l'aéroport actuel, près de l'aéroport actuel, si on veut faire ça. Donc, financé par l'armée, il fait toute une série d'essais de cerf-volant pour en transporter un observateur humain, mais c'est quand même quelque chose d'assez risqué, d'assez dangereux, et il va aussi faire quelques essais donc, à partir de ballons, avant d'imaginer que la solution idéale là, soit le plus lourd que l'air. Alors, Claude Carlier a écrit là-dessus, donc il pourra vous en dire beaucoup plus que moi sur ce qu'il a appelé le grand procès de Clément Ader, donc pour savoir s'il a écrit ou pas, toutes les retombées de ses recherches, il vous renvoie à son livre. Mais les essais donc, sont essentiellement parisiens, avec Eole, avec Avion 3, et se déroulent donc. Comme vous le savez, mais l'handicap de Clément Ader, c'est que son avion est arrivé trop tôt, même en 1897, quelque part c'est trop tôt, pour deux raisons essentielles. Alors le moteur qui n'est pas assez puissant, probablement, même si le rapport poids-puissance pour certains est meilleur que le moteur des rois, il faut savoir qu'un moteur à vapeur, ça implique aussi plein d'équipements autour, donc c'est pas aussi simple qu'un moteur à combustion interne, comme son nom l'indique. Et le deuxième problème majeur, c'est que peut-être heureusement que Clément Ader n'a pas décollé, parce qu'en fait, son système de contrôle de l'avion par les vis, etc., qu'il fallait tourner pendant un certain nombre de minutes pour arriver à modifier la position des ailes ou du gouvernail, l'aurait certainement conduit vers un accident grave. Donc l'avion n'est pas pilotable. Il n'a pas fait d'essai, il n'a pas, auparavant, il ne s'est pas entraîné comme les Wright sur un planeur. Et vrai qu'on fait 700 vols en planeur avant de piloter leur avion motorisé. Donc là, on est dans un monde tout à fait différent. Et même quand Ader essaye de l'expliquer, de se justifier, eh bien, il y a un témoin qu'il cite dans ses ouvrages, parce qu'il a beaucoup écrit ensuite, il y a un très visionnaire sur le rôle que peut avoir l'avion dans l'armée. C'est peut-être là que son génie est encore plus fort, parce qu'il a compris très tôt, dès 1905-1906, que la guerre aérienne était toute proche, même s'il a réussi à construire le véritable premier avion. Et ce que lui dit un lieutenant du génie qui s'appelle Binet, dans une lettre de témoignage, voilà ce que Binet raconte. On peut remettre quand même l'avion d'Ader, celui qui est conservé, l'avion 3. Et bon, l'image d'Épinal, quand ça tourne, on voit légèrement décoller l'appareil. Alors le lieutenant du génie Binet, lui, indique, je le cite, il manquait surtout à l'avion un pilote sachant le manœuvrer. Après avoir quitté le sol, et c'est là, à mon avis, le point difficile. Et il a un peu d'humour, et il ajoute un peu plus loin, une comparaison fera mieux comprendre ma pensée. Si, pour apprendre à monter à bicyclette, il fallait s'exercer dès le début sur une piste très étroite et bordée de chaque côté par un précipice, il est probable que personne ne saurait encore y monter aujourd'hui, parce que tous ceux qui auraient essayé se seraient rompus les os. Donc voilà en gros le constat du lieutenant du génie Binet sur les tentatives de Clément Ader. Ce qui est intéressant de souligner aussi, c'est le soutien de l'armée, à cette affaire 300 000 francs or en 1892. C'est-à-dire, si on fait une conversion, le franc or, il faut multiplier à peu près par 15 pour avoir des euros, donc on a plus de 4 millions d'euros. Ce qui est quand même très significatif à une époque où le budget de l'État est très réduit. Hein. Donc, il y a un vrai engagement financier de l'État. Mais vu que l'avion 3 est très endommagé lors de cet essai, l'État-major, là, a quand même déçu. Il avait prévu un avion qui pouvait voler à 100 mètres, qui pouvait transporter éventuellement quelqu'un, etc. Donc, on est très loin de loin. Et le projet, donc, ADER est abandonné. Alors, il existe une sorte de veille technique qui a été entretenue par des jeunes officiers de l'armée, le plus connu étant, bien sûr, Ferdinand Ferber, qui, lui, très tôt, va entrer en correspondance avec différents spécialistes mondiaux. Il s'intéresse au plein nord de l'Oriental, de l'Allemagne orientale, il correspond à Chanute, etc. Malheureusement, il est passé assez vite. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui continuent à croire au plus lourd que l'air. Et beaucoup de Français, même si ce n'est pas eux qui vont réussir les premiers, mais c'est certainement en France qui a le plus d'expérimentateurs, hein, y compris Blériot, parce que Blériot, on l'a retenu avec son Blériot 11, mais ça veut dire que les 10 précédents n'ont pas volé. Donc il y a quand même, avant Blériot 11, 10 échecs. Et une ruine complète quand enfin le Blériot 11 décolle, heureusement pour lui, et qu'il le sauve de la faillite. Donc revenons maintenant sur ce triomphe des plus lourds que l'air et les premiers vols d'avions dans la région de Toulouse. Ce sera le thème de la dernière partie. Cinq minutes, je vais le traiter rapidement. Donc on est dans le cadre de l'euphorie de la belle époque. Là, vous avez Santos Dumont, le dandy brésilien, qui officiellement en 1906 réalise le premier vol en ligne droite hein, pendant très peu de temps. On sait bien que déjà depuis 1903, les frères Wright font beaucoup mieux, mais parce qu'ils veulent commercialiser leur avion, ils cultivent le secret industriel. Et ce qui se passe, c'est qu'ils viennent, ils sont obligés de venir en France pour démontrer qu'ils ont un vrai avion. Et là, tout change donc à partir de 1908. Où les frères Wright, donc là vous avez Wilbur qui répare son appareil qui a souffert pendant la traversée, les frères Wright au Mans, donc pour une véritable démonstration, écrasent la concurrence puisqu'ils sont capables de décoller plusieurs fois de suite, d'emmener des passagers, et à la différence de Clément Ader, ils font corps avec l'avion, puisqu'ils le connaissent par cœur, tous ses comportements, par n'importe quel vent, après 700 vols d'entraînement sur un planeur du même type, évidemment, ils sont prêts pour faire ces démonstrations. Et donc les Wright vont remporter tous les prix qui avaient été mis en jeu en 1908-1909 et donner en quelque sorte une leçon de modestie aux Français qui critiquaient violemment la réalité de leur vol. Mais la revanche arrive vite, je vous rassure, puisque les Wright, eux, ont stabilisé les brevets et ne font plus évoluer leur avion. Résultat, ils cherchent à le commercialiser, à le faire fabriquer sous licence, mais ils n'évoluent plus. Alors que tous ceux qui ont pu les observer vont faire beaucoup mieux, c'est-à-dire qu'ils très vite comprennent que le plan canard, l'hélice à l'arrière propulsive, c'est pas une bonne idée. Et dès l'année suivante, lors de la traversée de la Manche par Blériot, ben les Wright sont déplacés, c'est le premier vol. Donc 1909, traversée de la Manche avec le Blériot 11, c'est pas les Wright qui la réalisent, c'est bien Blériot. Et puis le plus grand meeting, le plus grand spectacle mondial, je sais pas si ça a été dépassé depuis, c'est la fameuse semaine, la grande semaine d'aviation de la Champagne, 500 000 spectateurs. Donc c'est gigantesque. Hein. Et ça passe en France. C'est en France qu'en fait, plus dur, les Wright sont obligés de venir en France. Hein. C'est le lieu du sport, du spectacle, etc. Résultat, les progrès sont ultra rapides, les avions Wright sont dépassés. Blériot est le premier à vraiment produire en série son avion, je crois, sur Curtis. C'est un journal allemand qui rencontre la semaine d'aviation. Et Blériot développe la première usine à Levallois après 1909. Voilà, ça ne sert à rien à voir. Et produit tout ça à Paris pour exporter dans le monde entier. L'armée en achète d'ailleurs un puis l'autre dans les années 1910-1911. Alors que se passe-t-il à Toulouse en deux minutes? Il se passe quand même quelques petites choses qu'il faut indiquer, même si l'engouement était moins fort pour les plus lourds que l'air que pour les ballons à Toulouse, mais il y a quelques passionnés, bricoleurs, alors pas toujours de génie, mais comme Jean-René Lagasse, donc qui dès 1901 aurait fait des tentatives sur un vélo avec des ailes. Marius Tersa, qui va devenir un pilote célèbre après, qui à 20 ans a fait une tentative lui aussi avec un moteur en Zali, un avion de sa conception à Léonore Serre, mais ça ne marche pas, même s'il fait remonter ensuite l'avion par une voiture. Casalo et Prévost qui participent au fameux grand meeting de Toulouse du 30 juillet. au 1er août, qui a lieu au polygone, le fameux polygone que vous voyez qui est dans cette zone. Alors pour la situer, c'est pas très loin de la gare de Saint-Cyprien, c'est un peu au nord de la gare de Saint-Cyprien. Et c'est là qu'ont lieu tous les grands meetings toulousains. Ce meeting accueille énormément de monde. Il est un petit peu handicapé par le temps, il y a trop de vent, au-delà de 50 km/h, on décolle plus. Donc le meeting n'est pas un succès populaire, ce meeting de 1910. Mais lors de ce meeting, les deux Toulousains précités ont fait des tentatives, mais n'ont fait que des sauts de puce. Hein. Cazalot et Prigon n'ont pas vraiment réussi. Alors il y a 6 autres participants qui sont venus de l'extérieur, dont une femme, Jeanne Hervieux, qui réussit plusieurs vols lors de ce meeting toulousain. Une parisienne âgée de 24 ans, sportive, connue, pratique l'équitation, l'escrime, la natation, les courses automobiles. Elle réussit plusieurs vols lors de ce meeting. Il y a des prix qui sont offerts par la ville, par la dépêche, par... on va jusqu'à 5000 francs, hein, donc faites le calcul, c'est 75 000 euros. Pour le vol le plus long, c'est 5000 francs hors de récompense, donc c'est quand même non négligeable. C'est le grand spectacle de l'époque. Ça va très vite s'arrêter après parce que les avions vont trop vite et trop haut à partir de 1913-14. Mais jusqu'en 1912, c'est vraiment le grand spectacle. L'année suivante, on est obligé de citer, on a donc le premier vol véritable entre Pau et Toulouse, par Roger Morin, c'est à l'école d'aviation créée par les Royals à Pau, le Suisse, donc Roger Morin. Et deuxième personnage à clé, oui, je n'ai pas d'illustration pour lui, c'est Jules Vidrine, mais bon, on peut le facilement, c'est le fameux qui a ensuite posé sur les deux toits des gardes de la Palais, mais qui lui réalise un vol Toulouse de Carcassonne le 5 mars de la même année, le 5 mars 1900. Enfin, dernier événement toulousain qui mérite d'être cité, 7 juillet 1913, la grande fête d'hydroaviation qui a lieu à Toulouse sur la Garonne, où Champbenois évolue avec un hydravion entre le pont Saint-Michel et le pont Neuf. Voilà. Au total, Toulouse fait bien partie des villes immédiatement sont suiveuses des événements aéronautiques parisiens, Mansour ou Rémois, mais ce n'est pas une capitale de ces manifestations, on doit l'avouer objectivement, ni encore un lieu de production. Cela, il faut attendre 1917, Pierre-Georges Latécoère, donc ce dont je vous parlerai tout à l'heure. Merci pour votre attention.